Donc quand nous disions qu'on était différents, c'est vrai que c'est une des difficultés. Donc le couple il s'enrichit dans la différence et dans l'union du couple. Alors c'est vrai que vous allez voir que quelquefois nous imaginons que la grandeur du couple et la grandeur de l'amour, c'est d'être des purs esprits. C'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Donc vous allez voir ce que nous dit Saint Jean-Paul II, c'est quand même assez extraordinaire parce que il rappelle quelque chose. Donc il y a tout le début qui est sur la création, les eaux ne t'étaient pas cachées. Donc vous savez qu'il y a dans la Bible deux textes de la création, deux textes différents. Et alors, vous allez voir ce qui est un petit peu dit. Je vous lis une trentaine de lignes qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, vous vous souvenez qu'au moment où Adam découvre Ève en se réveillant d'un sommeil très profond, quand il y a un sommeil très profond dans la Bible, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est en train d'agir. Et donc, exultation, chant d'amour, parce que découvrant, après l'expérience douloureuse de l'angoisse existentielle de la solitude d'un autre lui-même, il va pouvoir enfin se donner et par conséquent réaliser sa vocation de personne. Et voilà ce que nous dit Jean-Paul II. C'est dans... Alors, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il nous dit, c'est dans l'acte sexuel qu'ils deviennent une seule chair après le chant d'amour de la reconnaissance de l'autre comme personne. L'acte sexuel est l'expression de cette communion. Lorsque l'homme et la femme, dans cet état de pureté et d'innocence originelle, qui nous est à tout jamais inaccessible, se donnent totalement dans la joie de la communion du corps, ils sont image de Dieu. C'est seulement quand ils deviennent une seule chair que la création est achevée et que l'image de Dieu est totalement inscrite, incarnée dans la matière. Vous voyez pourquoi l'Église est aussi, met la barre aussi haut dans ce qu'elle nous dit sur la sexualité. L'homme devient image de Dieu moins au moment de la solitude qu'au moment de la communion. Ce point est capital, car nous avons trop tendance à croire spontanément que l'homme est image de Dieu en ce qu'il est doté d'un esprit, d'une âme spirituelle qui le rend semblable à Dieu, qui lui est pur esprit. En réalité, l'homme et la femme sont appelés, sont surtout image de Dieu, en tant que personnes appelées à la communion. Puisque l'homme et la femme sont des êtres incarnés dont le corps exprime leur personne, cette communion des personnes inclut la dimension de la communion physique par la sexualité. Dans ce don des personnes, il y a une révélation mutuelle qui est le fruit de la communion. L'homme révèle sa femme en se donnant à elle, et la femme révèle l'homme en acceptant le don de son époux et en le lui restituant. Comme dans la Trinité divine, le Père se révèle dans le Fils et le Fils redit les merveilles du Père. Dans l'état d'innocence originelle, la femme révèle l'homme, l'homme révèle la femme, l'homme se révèle dans la femme et la femme se redit dans le don de l'homme. Et la conclusion du chapitre est, alors, la différence sexuelle est constitutive de la personne et la définit de manière essentielle. C'est donc, je vous souffre encore un paragraphe, c'est donc par le don et par la communion des corps que l'homme et la femme sont images de Dieu. Et c'est avec cette communion que la création, l'œuvre divine, trouve son achèvement et sa plénitude. C'est comment pour vous quand je vous dis ça?
C'est beau.
C'est beau? Oui, c'était évident, c'était pas évident.
De faire la relation à proximité,
c'est, ça, d'accord.
Peut, ça peut être évident.
C'est le plan de Dieu sur la sexualité. Oui. Ce pour dire que vous voyez que être différent, homme et femme, est une grande richesse. Et que, comment vous dire, quel est, pourquoi est-ce que par exemple l'Église se permet d'avoir un discours en invitant à repérer le cycle naturel de la femme? Il y a aujourd'hui, sachez qu'il y a aujourd'hui énormément de progrès. Il y a entre autres 50% des couples infertiles, même ceux qui ont essayé des FIVettes, qui aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle de la naprotechnologie et qui vont arriver par l'observation du cycle très en détail de la femme, cycle qui n'est pas tronqué par une contraception chimique, hein, j'entends, un cycle normal, vont arriver à avoir des enfants. Ce que n'arrivent même pas à faire les fivettes et les grands pontes, parce que le corps est quelque chose de tellement délicat, tellement infime, que le moindre petit déréglage fait qu'il peut y avoir une difficulté dans la grossesse. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire qu'il y a une beauté immense dans cette horloge mécanique magnifique. Et que quel est l'inconvénient? Et c'est ce que l'Église rappelle quand elle a un discours qu'on interprète, l'Église est contre aussi. C'est que dérégler le corps de la femme, ça veut dire qu'on va lui donner, je dirais, quelque chose qui est très masculin. C'est-à-dire qu'on la rend linéaire. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. D'ailleurs, la femme devient, allez, elle gère les deux boulots, Wonder Woman, comme le mari, très, comment dire. Et puis avec, moi je constate quand même que beaucoup de femmes ont peur de l'abandon. Comme elles ont peur de l'abandon, elles veulent avoir leur trimestre de retraite, elles cotisent, elles s'épuisent, elles ont des grossesses, elles reprennent le boulot tout de suite. Elles sont épuisées. Et elles sont épuisées en même temps, elles portent en elles cette espèce de peur, qui est une peur existentielle d'Adam, mais de la solitude et de se dire, oui, mais si j'arrête, est-ce que je retrouverai un boulot? Comment je vais faire? Et n'oubliez pas que la peur, c'est le fruit du malin, du démon. Vous savez, Saint Jean-Paul II disait, notre génération est presque un peu jeune pour l'avoir entendu, mais n'ayez pas peur. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est, si on doit vous laisser une seule phrase en partant, c'est n'ayez pas peur. Cramponnez-vous au Seigneur, il va veiller, et n'ayez pas peur, et soyez pleinement homme et pleinement femme, avec la richesse de votre masculinité et de votre féminité.
De votre différence.
De vos différences. Alors c'est vrai après que, même chose, vous voyez, ce dont on se rend compte quelquefois, et c'est vrai quand il y a une cohabitation un peu longue, c'est qu'on a pu prendre l'habitude de prendre d'office la pilule. Allez, on prend la pilule. Oui, mais pourquoi arrêter à tel moment plutôt qu'à tel autre? Honnêtement, je vous pose la question, pourquoi vous allez arrêter un jour si vous prenez la pilule? Il n'y a pas de raison. Donc l'enfant devient celui par lequel on doit arrêter. La norme deviendrait je suis sous pilule tout le temps. Sauf au moment où on veut un enfant. Et on reprend son traitement comme si nous avions été créés pour être sous quelque chose de contraceptif. Alors, il y a moins d'effets secondaires avec tout ce qui est de l'ordre des préservatifs. C'est vrai qu'il n'y a pas d'atteinte au corps de la même façon, il n'y a pas de conséquences qui restent dans le corps avec effectivement tous les inconvénients des molécules chimiques. Mais, et puis, il y a quand même quelque chose, le stérilé qui est présenté comme quelque chose de basique, parce que maintenant il y a des hormones dedans. Le stérilé, vous savez, j'aurais dû en apporter un, c'est quelque chose qu'on met avec une espèce de petite seringue qu'on installe dans le col de l'utérus, qui a un filament, qui a cette taille-là, enfin, qui a cette forme-là, il y a un petit filament dedans, et puis on va le mettre, quelquefois la femme ne va pas le supporter, mais bon, on va le mettre, et les médecins disent c'est un contraceptif. Alors, il faut quand même savoir que sur le plan moral, éthique, on ne sait pas ce qui agit le plus de l'aspect contraceptif ou contragestif. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est que ça crée un état inflammatoire. L'utérus est en permanence dans un état inflammatoire, avec les conséquences sur 20 ou 25 ans, un état inflammatoire permanent. Le risque quand même que le stérilé parte se promener, ça arrive. Le risque d'infection gynéco répétée, ça arrive. Et surtout, c'est surtout que ça empêche un ovule fécondé, donc un œuf, un embryon, de s'implanter parce que la muqueuse utérine est trop irritée. Donc il faut quand même savoir, c'est pour ça que c'est important que vous ayez une réflexion éthique avant, c'est-à-dire que dites-vous que tout ne se vaut pas et qu'il ne faut pas se dire, bon, on va faire au plus simple, bon, bah, ça me donne des nausées d'avoir la pilule, bon, bah, écoute, on va prendre des préservatifs provisoirement. Vous voyez, moi je suis très impressionnée quand j'entends qu'on met au même niveau dans les dangers de la sexualité, les infections sexuelles et les grossesses. Maintenant, la grossesse est présentée comme un danger. Or, dans le plan de Dieu, si on regarde la création, fructifier, combler la terre, alors ça ne veut bien sûr pas dire d'avoir 40 enfants, mais ça veut dire que nous portons la responsabilité de cette terre, Donc aussi la responsabilité de l'écologie, la responsabilité de la planète, la responsabilité de l'eau. Est-ce que je fais du gâchis partout? Est-ce que je fais du gâchis alimentaire? Est-ce que je gâche ce qui m'a été donné? Est-ce que je gâche mon corps? Et vous voyez que souvent, ce que je constate dans les couples qui ont des contraceptions très durables, c'est que l'un des deux risque de devenir objet de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « bah, vraiment, je te désire, je te trouve beau, je te trouve belle » et de prendre, si on l'a à la fin, il y a un texte magnifique du Cantique des Cantiques. Vous le connaissez, ce texte du Cantique des Cantiques? Vous l'avez déjà lu? Oh, c'est un psaume. Bah, tu veux le lire maintenant, chérie? On doit l'avoir? On doit en avoir un extrait? Je crois qu'on l'a. Hein? Non, je ne suis pas sûre que tout le monde ne porte pas le livre. Rouge. Vas-y. Non, c'est pas celui-là, ça c'est pour grande audience. Ah voilà, il y en a un extrait. Bon, il y a un extrait. Oui.
Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble. Les contours de ta hanche comme des colliers, œuvre de tes mains d'un artiste. Ton ventre est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton sexe, un amas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme des fans, jumeaux d'une gazelle. Ton cou comme une tour d'ivoire. Et donc un petit peu plus loin. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme le vin du bonheur. Et encore un petit peu plus loin, il coule tout droit pour mon bien-aimé, il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment, je suis à mon bien-aimé et son désir est sur moi. C'est le Cantique des Cantiques.
Tout le livre est comme ça, c'est un livre qui est au milieu de la Bible, certains couples choisissent comme psaume pour leur mariage. C'est dire que l'Église a toujours trouvé, vous voyez, c'est un livre d'érotisme, mais d'un érotisme tellement beau, l'Église a toujours trouvé que le corps était quelque chose qu'on pouvait, à l'image de ce que dit Saint Jean-Paul II, qui est tellement grand et tellement beau, qu'on ne peut pas traduire mieux cette communion avec Dieu. Hein, il y a un livre qui s'appelle, le livre d'Olivier Florent, s'il te plaît. Bon, ça va revenir avant la fin. Non, la chirurgie de l'orgasme, là. Bon, ça va revenir, le titre est un peu provocant. Et il explique comment, dans l'acte charnel, on peut quasi avoir l'Eucharistie. C'est-à-dire, il y a ce temps de contemplation, le temps de louange, le temps où on se demande pardon, le temps où on va s'offrir l'un à l'autre, le temps où on va rendre grâce et le temps où on va méditer. Donc le livre est écrit pour expliquer que l'acte charnel est comme une eucharistie, comme une action de grâce. Donc vous voyez, c'est quand même autre chose que de le vivre comme « Oh, il y a longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, écoute, allez, on tire un petit coup et puis on sera plus détendu après. » Pardon, je fais exprès de dire de façon un peu hard. Bon, mais ce pour dire que ça n'est pas un acte hygiénique, c'est un acte tellement profond de la communion. Alors, vous avez peut-être été à la pièce qui est donnée régulièrement ici par Paul Vercambre, ce Belge, qui est une pièce où il parle du couple, de l'homme et de la femme, et il va expliquer que dans le langage amoureux, il peut y avoir des repas, il parle des repas couscous, des repas maison et des banquets. Voilà, et des banquets. Ben, c'est vrai que les images qui nous sont données des noces éternelles, c'est-à-dire de la rencontre avec Dieu, c'est l'image d'un banquet. Alors c'est vrai qu'on peut dans la vie amoureuse se faire des pique-niques de temps en temps, mais si on fait tout le temps des pique-niques, eh bien vous pensez, ben, comment on sort de la routine? Et bien au bout d'un moment, si on va au McDo tous les jours, qu'on a des pique-niques tous les jours, eh bien jusque là, c'est-à-dire ça va perdre son sens.
Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré.
Voilà, le sous-titre, c'est...
Pour une liturgie de l'orgasme.
Vous voyez, c'est quand même... Olivier
Florent.
Alors, c'est le livre d'Olivier Florent, c'est un sexologue absolument extraordinaire. Mais alors, je vous dis que le langage, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que on est vraiment appelé à quelque chose de tellement beau et de tellement grand. dans le respect de nos corps, du corps de l'autre, de pouvoir se dire « je te désire », de pouvoir se dire de la tête aux pieds « tu es si beau, tu es si belle, tu es désirable », de pouvoir aussi avoir des dialogues, de demander « mais comment on dure ?» Ben voyez, il y a quelque chose, on s'est rendu compte que pour durer, c'était, il y a un outil qui pourrit les couples, c'est les reproches. Alors là, il faudrait pour un reproche,
oula, ça
faire cinq compliments. Ça c'est un repère. Un reproche, cinq compliments, vous pouvez le noter. Et il faudrait aussi, parce que les reproches, en général, on est doué. Et il y a quelque chose qui est vraiment la communication du couple. C'est très important. Ne croyez pas réconciliation sur l'oreiller. Si vous avez eu un accrochage, ne croyez pas que parce qu'on va être dans le bras l'un de l'autre, ça sera oublié et réglé, que le lendemain matin, on n'en parlera plus. Ça, c'est une fausse vision. Le langage des corps, ça n'est pas un acte hygiénique, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'apogée de la création, l'apogée de notre ressemblance à Dieu et l'apogée de la communion du couple. Alors, on peut vivre autrement.
Et donc,
mais c'est trop dommage.
Et donc, il y a une synchronisation entre monsieur oui. et madame.
Vas-y.
Et donc, il y a une synchronisation entre monsieur et madame sur, justement, le fait de se préparer à une soirée festive. Parce qu'on ne fonctionne pas du tout, monsieur ne fonctionne pas du tout comme madame.
Et, j'ai remarqué.
Et donc, il y a quelquefois des décalages extrêmement importants. Hein. Alors, on peut rire d'histoire sur le fait, par exemple, mais ce sont un peu des caricatures, sur le fait où monsieur et madame petit déjeunent, et puis il y a un coup de fil. Et c'est la maman de madame qui téléphone, et donc ça papote, et donc le coup de fil se termine, et donc monsieur dit à madame, c'est encore ta mère qui téléphone, c'est quand même pas possible. Donc madame est un peu tendue, elle est un peu ça la froisse. Et donc, monsieur et madame partent travailler, et puis le soir, chacun revient, monsieur fait un petit baiser dans le cou à madame, mais il sent que madame est un peu tendue. Monsieur, il a complètement oublié ce qui s'était passé le matin. Mais madame, elle a complètement retenu ça. Hein, vous voyez, ce sont des...
Et je peux vous dire qu'on a été à dîner, on avait quoi, 15 ou 20 ans de mariage, on a été à dîner, la conversation est arrivée, et c'est vrai ce qu'on vous raconte, sur les bagues de fiançailles. Dieu du ciel. C'était en fait, sont arrivés dans la conversation, il devait y avoir 5 ou 6 couples, sont arrivés dans la conversation toutes les blessures que mesdames avaient eues quand elles étaient fiancées, sur la façon dont les bagues avaient été remises, sur les commentaires des beaux-parents, sur l'oubli, le fait qu'elle n'avait pas été là pour la bonne dame, le fait qu'il y avait une histoire où elle trouvait les beaux-parents rapiens, où on lui avait offert une pierre qu'elle n'aimait pas, ou enfin, qu'importe. Mais alors, ces messieurs, ils tombaient de la lune, ils ne se souvenaient pas du tout, ni de l'histoire, ni du détail. Mais alors, madame, ça faisait, pour que ça soit arrivé dans le dîner, 20 ans qu'elles avaient ça en travers du gosier. C'est-à-dire, non pas sur la valeur, comprenez bien, pas sur la valeur, madame, sur tout ce qui avait été les symboles autour de la façon dont ça avait été remis. Est-ce que ça avait été délicat, attentionné? Est-ce qu'il y avait eu des mots tendres? Est-ce que ça avait été donné comme un paquet? Est-ce qu'il y avait un joli nœud? Est-ce que toute la famille s'est émerveillée? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Voilà, tout ce qui était autour. Et ça va être vrai. Il y a un décalage. Monsieur, il est dans le moment présent. C'est-à-dire qu'il arrive un événement, il rentre, vous savez, on a tendance toujours de Paul Bercand, quand il raconte, il compare. Madame a une armoire et monsieur a une commode. Vous avez déjà entendu cette comparaison? Bon, bah,
non.
Madame, vous cherchez quelque chose, vous ouvrez le placard et alors là, vous avez tout qui dégringole. D'ailleurs, quand vous allez dans le bureau, vous voyez madame, elle a les photos de son jus, du culot, tout est super organisé. Les femmes savent s'il y a des. Les femmes savent si les autres sont mariés ou des enfants. Il y a voilà. Les petits julots, ils sont partout, le jus, il est partout, toutes les femmes. D'ailleurs, quand madame sort avec une amie, c'est toujours, hein, tu crois que ça va plaire à Jules? Ah, mais ça, j'aimerais bien, Jules partout.
Mais c'est pareil, c'est caricatural. C'est assez représentatif.
Bien sûr, il y a des hommes qui vont.
Alors on parle de madame quelquefois, c'est inversé, hein, quelquefois, c'est monsieur.
Il y a les pieds. Vous voyez, en tout cas, c'est plutôt drôle l'histoire du père qui est arrivé, qui doit partir. Quand je vous disais que c'était quelquefois. Voilà. Alors, quand on est madame, madame, qu'est-ce qu'elle a dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie, madame? Allez-y, qu'est-ce qu'elle peut avoir dans sa vie? Madame, mademoiselle, enfin les femmes, qu'est-ce qu'elles ont dans leur vie?
Sa famille.
Sa famille, ok, qu'est-ce qu'elle a d'autre?
Les copines.
Les copines, ensuite.
Les fringues.
Les fringues.
Fringues, shopping.
Travail.
Oui, elle travaille aussi, oui. Qu'est-ce qu'elle a d'autre?
Les loisirs.
Loisirs. Bon. On va faire comme ça. Donc, quand madame, on pourrait rajouter d'autres choses. Quand elle est en famille, elle va parler de Jules. Quand elle est avec ses copines, elle parle de Jules. Quand il y a Jules, les fringues, il faut que ça plaise à Jules. Les shopping, elles vont chacune aller et puis chacune parler de leur Jules. Le travail, ah oui, mais je serai plus près à la maison, ben, je pourrai aller déjeuner avec Jules. Et les loisirs, c'est tellement mieux quand on y va avec Jules. C'est pas obligatoirement envie d'aimer. Voilà le cœur de Julie.
Alors, où est Jules?
Alors, Jules, qu'est-ce qu'il a comme activité, Jules? Il a du travail, qu'est-ce qu'il a pour?
La bière, le poker.
Match, poker, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Sport.
Julie.
J'ai pas entendu parler.
Julie.
Et il a Julie. Effectivement, il a Julie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Julie, on dit qu'elle a un cœur détoisonné. C'est-à-dire que quand Julie, elle a Jules, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une autre couleur. Quand Julie, elle a Jules dans sa vie, Jules, il est là. Il est partout. On peut le retirer.
Oh, tiens, il est là.
Et c'est lui, il est là. Parce que si on lui met des trucs rouges graisses pour les enfants du caté, ça fera moche, quoi. Merci. Et par contre, donc là, on est dans le cœur de Jules.
Merci.
Et Jules, il est comme ça.
Il faut donner.
Ça veut dire que Jules, quand il est avec ses copains, il ne regarde pas l'heure. Donc je ne vous dis pas quelquefois à quelle heure il rentre chez lui, Jules. Il prétend qu'il allait juste prendre un verre avec ses copains. À 10h du soir, il débarque à tout la vie. Il est étonné que Julie ne soit pas contente. Après ça, la console. Même chose, Jules, il est sur sa console. Oh, j'arrive, je viens le coucher. 2 heures après, Julie n'est toujours pas là. Julie, il est avec Julie. Alors quand même, n'empêche que chez mon garagiste, ce n'est pas les photos de Julie qui sont derrière son bureau. Hein? Après ça, il va au sport, il va avec ses copains, etc. Et tout. Oh, ben on va s'arrêter de prendre un verre, se désaltérer. Même chose, samedi matin, Julie, elle attend Julie. Il a complètement oublié qu'ils avaient, je sais pas quoi, ou l'anniversaire de la tante Gudule, ou. Eh ben, lui, il n'est pas rentré à l'heure où tout le monde l'attendait. Il va à un match, ben, il va à son match, il est ravi, il a son drapeau, il a sa casquette, machin et tout. Bon, ben, après, il rentre quand il rentre. Hein, il ne va pas appeler pour dire t'inquiète pas, il y a du monde, je suis obligé de prendre une autre ligne. Pas du tout. Et lui, il se dit qu'il va arriver. Et il a son boulot, et à son boulot, ben, beaucoup de Jules ne savent même pas, les autres Jules, s'ils sont mariés, s'ils sont des enfants. Alors souvent, les femmes disent, mais il a une alliance, il a... Ben, je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais. Les femmes, elles voient toujours, hein, ça. Donc voilà, ça veut dire que, pourquoi est-ce que cet acteur compare la femme à une armoire et l'homme à une commode? C'est que, quand on ouvre le placard de Julie, si Julie, elle a un enfant qui est malade, si Julie, elle a un souci au boulot, si Julie, elle a sa mère ou sa belle-mère qui lui a fait une remarque désagréable, au moment où Jules va lui parler, il y aura tout à la fois dans la tête et le cœur de Julie. Ça veut dire qu'elle peut être dans un état émotionnel, surtout si elle est dans sa féminité en plénitude, je veux dire. Elle peut être dans un état émotionnel, lui, il ne va rien comprendre. Il dit, mais je te pose juste une question sur est-ce que tu as passé une bonne journée? Et Julie, elle va, tout le placard ouvre et ça dégringole. Et Julie ne comprend pas, mais pourquoi elle me dit tout ça? Je lui demandais juste si elle a passé une bonne journée. Et voilà, c'est la série des catastrophes, tout le placard qui s'ouvre et qui dégringole. Est-ce que vous y retrouvez? Bon, et là, par contre, voilà, enfin, on est toujours dans la caricature, bien sûr. Et Jules, par contre, Julie, elle va poser une question à Jules. T'as passé un bon voyage, Jules, pas en voyage quelques jours. T'as passé un bon voyage? Oui, oui. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ben écoute, on était... Ah, mais Jules, tiens, tu me fais très bien.
le premier jour, voilà, on a rencontré les clients, on devait... on pensait qu'on allait signer le contrat tout de suite. Bon, on a fait quelques modifications, donc on a fait ça le premier jour. Deuxième jour, on a rediscuté, il y avait quelques points litigieux, etc. Troisième jour, on a signé, voilà, c'était impeccable. Et me voilà, je rentre.
Enfin, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Qu'est-ce que t'as fait pendant ces trois jours? Vous avez fait des trucs, vous êtes sortis, vous avez été au spectacle, c'était sympa.
Ah oui, oui, c'était sympa.
Vous avez rien fait d'autre le soir? L'hôtel était bien. T'avais des collègues que je connais.
On allait dans des restos pas mal, c'était sympa, on a bien mangé.
Bon, ben voilà. On va pas continuer, mais ce pour vous dire que voilà, Julie, elle a envie d'avoir les détails, l'ambiance. Ben Julie veut partir en voyage, il revient. C'était la case boulot. Il rentre, c'est fini, on passe à autre chose. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Parce que vous voyez que Julie va pouvoir garder dans le temps des tristesses et des chagrins très profonds. Et donc, ça va être très important de mettre en place des temps qui vont être... Alors, les équipes de Notre-Dame appellent ça des devoirs de s'asseoir, le terme est malheureux, il faudrait appeler ça le plaisir de s'asseoir. Des temps, on sait que pour qu'un couple arrive à avoir une communication qui soit riche et durable, il faudrait... On va être dans l'idéal. Il faut qu'ils aient un soir par mois qui soit un soir où ils vont faire le point sur leur vie de couple. C'est-à-dire non pas dans le moment de tension, d'accrochage, mais on sort tous les deux. Ou alors on fait un dîner aux chandelles parce qu'on a des enfants malades. Enfin, en tout cas, contexte un petit peu différent.
Hein, festif.
Où on se positionne pour un dialogue. Et on va aller aborder notre vie de couple avec qu'est-ce qu'est notre vie spirituelle, où j'en suis, voilà, qu'est-ce que je vis dans mes désirs profonds, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui au contraire est difficile pour moi. Voilà,
qu'est-ce que j'ai aimé dans le mois passé,
qu'est-ce qui a été moins aimé,
qu'est-ce que j'aimerais que l'on puisse faire.
Et alors, vous voyez, les axes, ça va être la vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie charnelle, la vie familiale et la relation aux autres. C'est un peu pour vous donner des repères, c'est un peu scolaire de vous dire comme ça. Mais c'est pour vous donner des repères. La vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie charnelle, la vie familiale, la relation aux autres. Vous voyez, il n'y a rien de plus beau que quand dans un couple on peut se dire « mon cœur aspire à ça » ou « tu vois, en ce moment j'ai vraiment l'impression que je suis appelée à vivre plus de générosité ou plus de charité ». Où ça fait plusieurs fois que je croise un clochard en bas de chez nous, ben vraiment, je voudrais qu'on puisse en couple faire quelque chose pour lui. Vous voyez, ça peut aussi être des choses comme ça.
Et donc, tu n'es pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire une soirée par mois, un week-end par trimestre et une semaine par an.
Sans enfants.
De manière à pouvoir se poser ensemble et pouvoir se dire les choses.
Et alors,
donc, oui, vas-y.
Non, mais je pense que c'est très important que, une fois que vous allez être marié et quand vous allez avoir des enfants, quand vous dînez avec des amis, c'est pas avec les enfants. Ça n'est pas avec les enfants. On prend une babysitter, on n'en manque pas à Paris, c'est pas toujours la smala qui débarque. Parce que vous n'aurez pas le même dialogue. Ouais. Alors, c'est différent. Quand on va le samedi, le dimanche, les frères, les sœurs, les cousins, c'est différent. Mais ne prenez pas l'habitude d'emmener les enfants. En fait. Vous avez besoin de temps en couple.
Voilà.
En couple. Si vous avez conscience que votre couple est sacré, il va primer dans toutes vos décisions. On propose un nouveau boulot à tel endroit. Comment c'est pour moi? Comment c'est pour mon couple? Comment tu vis ça? On propose de partir à... En ce moment, je vous dis Singapour, parce qu'on a autour de nous plein de jeunes couples qui partent à Singapour, qui partent à Taïwan, qui partent à San Francisco.
Et puis, tu aimes beaucoup Singapour.
J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le climat. Je trouve que j'y étais qu'une fois, mais j'ai trouvé le climat magnifique. Mais en tout cas, je me suis sentie très très bien. Mais vous voyez, c'est vraiment important. C'est tellement important que ça vaut la peine que vous renonciez à des tas de choses. Vos enfants ne sont que le fruit de votre amour. Ils ne, n'ont jamais à être premiers. Ils n'ont jamais
vis-à-vis être premiers. Conjoint, par rapport au conjoint,
Ils n'ont jamais à être premiers. C'est d'abord votre conjoint, ensuite vos enfants, ensuite la famille élargie. Mais d'abord votre conjoint et ensuite les enfants. Et attention à la naissance du premier enfant, du deuxième enfant. Les femmes sont souvent, c'est un grand bouleversement dans une vie de femme. Les hommes ne se rendent pas toujours compte du bouleversement. Quelquefois, ils ont hâte de reprendre la vie charnelle et la femme peut avoir besoin d'un petit peu de temps. Parce que ça quand même, je veux dire que ce qui n'était que le lieu de l'intimité et du plaisir est aussi devenu le lieu de la naissance et de la vie. Donc c'est quand même un chambardement, comment vous dire, dans les images mentales aussi. Et c'est vrai que la femme peut avoir besoin d'un petit peu de temps pour reprendre une vie charnelle et pour redevenir l'amante qu'elle était avant. Parce que le fait d'être venue mère a beaucoup changé les choses. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ce temps de dialogue et de patience, car effectivement, et de même, vous voyez, quand on vous fait ce dessin, quand il y a un enfant malade dans une famille, ça peut être un très grand bouleversement. Monsieur peut arriver à dormir, mais quelquefois madame va perdre le sommeil complètement.